100% des autres, avec les médias francophones publics.
Et c'est donc votre rendez-vous avec l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. Et on va d'abord revenir aujourd'hui sur une condamnation en Tunisie, celle de l'avocate Sonia Damani. Elle avait été arrêtée en mai dernier en direct sur la chaîne France 24 et elle vient d'écoper, Nicolas Sûr, de 8 mois de prison.
8 mois ferme pour s'être montrée ironique vis-à-vis du président Kais Saied. Ses avocats dénoncent un harcèlement judiciaire.
Au Canada, le gouvernement est sur le point de perdre un allié clé. C'est dans le cadre de son programme de rachat d'armes à feu de type militaire, Nadim Mobarak.
Les survivantes de la fusillade de l'école polytechnique parlent de gaspillage de fonds publics.
Et cette fusillade avait fait 14 morts il y a 35 ans à Montréal. La précarité de plus en plus présente en France, c'est ce qu'indique le dernier baromètre du Secours populaire. Sa campagne est axée cette année sur la précarité dans le monde rural. Nous serons à Redescend dans le Gard. Et puis en Suisse, cette fois, Pierre Anchauffat, on vote à nouveau sur les retraites la semaine prochaine et les rentes pourraient baisser.
Oui, car on vit plus longtemps, l'épargne forcée de nos caisses de pension doit donc être répartie sur davantage d'années, mais la réforme a du plomb dans l'air.
Enfin, en Belgique, 2 jours de grève à l'aéroport de Charleroi, c'est jeudi et vendredi, c'est en région Wallonne. Des milliers de passagers ont été surpris par cette mobilisation du personnel, Jacques Kremers.
Oui, car cette fois, ce ne sont pas les pilotes de la compagnie Ryanair qui se sont croisés les bras, mais les travailleurs de l'aéroport. Ils dénoncent leurs conditions de travail et se disent épuisés.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. 8 mois de prison ferme donc pour avoir ironisé sur des déclarations du président tunisien. Kais Saied avait parlé des migrants subsahariens qui l'accusent de vouloir envahir la Tunisie. L'avocate et chroniqueuse Sonia Damani a osé ironiser sur ses propos. Nicolas, ça lui a valu d'être condamné à de la prison ferme.
Sur un plateau télé où un chroniqueur pro-pouvoir affirmait que des migrants africains cherchaient à s'installer durablement en Tunisie, Sonia Damani avait rétorqué « De quel pays extraordinaire parle-t-on » Des propos qui lui ont valu une enquête pour fausses informations dans le but de porter atteinte à la sûreté publique. Son arrestation quelques jours plus tard, alors qu'elle intervenait en direct sur la chaîne France 24, avait déclenché une vague de protestations. Ce qui n'a donc pas empêché sa condamnation. Son comité de défense dénonce un harcèlement judiciaire. Il s'insurge aussi contre le traitement réservé à Sonia Damani en captivité, évoquant des fouilles au corps indignes et humiliantes et l'obligation de porter en prison un voile blanc d'ordinaire dévolu aux femmes poursuivies pour des affaires de mœurs.
Alors Nicolas, Sonia Damani est condamnée en appel en vertu d'un décret présidentiel sur la diffusion de fausses nouvelles.
Oui, un décret très critiqué par les défenseurs des droits qui estiment qu'il sert surtout à faire taire toute voix dissidente alors que la Tunisie vote dans 3 semaines pour sa présidentielle. Depuis son entrée en vigueur il y a 2 ans, cet article a servi à condamner 60 professionnels des médias, avocats ou membres de l'opposition, selon le syndicat national des journalistes tunisiens.
Au Canada, le gouvernement Trudeau risque bien de perdre un appui important, celui d'un groupe qui milite pour un plus grand contrôle des armes à feu. Cette menace intervient à l'approche du 35e anniversaire de la tuerie de l'école polytechnique de Montréal. C'était en 89. 14 jeunes femmes froidement assassinées et 13 autres blessées. Aujourd'hui, le groupe baptisé Poly se souvient pourrait bien retirer son soutien au gouvernement, donc dans le cadre de son programme de rachat de centaines de milliers d'armes à feu de type militaire, Nadi.
Oui, parce que le groupe réclame que le programme soit élargi pour qu'il couvre toutes les armes de style militaire qui sont encore en vente libre au pays. Poly se souvient dénonce un gaspillage de fonds publics parce que les détenteurs d'armes à feu bannis pourront utiliser l'argent obtenu du gouvernement lors du rachat pour se procurer des armes à feu équivalentes qui demeurent légales et accessibles. Voici la porte-parole du groupe, Nathalie Provost.
On n'est plus au temps des idées, il faut être au temps de l'action et on ne la voit pas. On ne réduit pas le risque de ce qui est entre les mains des Canadiens. On fait juste remplacer les modèles, voyons.
Nathalie Provost du groupe Poly se souvient.
Alors cette sortie du groupe, Nadie, elle intervient au moment où le gouvernement Trudeau se prépare à récupérer et à détruire des armes de type militaire entreposées chez des détaillants.
Oui, voilà, ça doit se faire cet automne. Et puis la seconde phase du programme qui vise à récupérer les armes à feu entre les mains des citoyens est prévue pour le printemps 2025. Le coût du programme fédéral sera dans les centaines de millions de dollars.
Alors comment réagit le gouvernement Trudeau ?
Eh bien, pour l'instant, le gouvernement fédéral maintient qu'il ne va pas changer son approche, mais cette sortie de Police se souvient risque de faire mal aux libéraux de Justin Trudeau parmi les électeurs des grandes villes du pays, croit le politologue Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta.
Toutes les conditions pour le moment semblent défavorables pour la mise en place d'un programme aussi complexe et qui demande une collaboration avec les provinces.
Ottawa insiste pour dire que son programme est la façon la plus concrète de renforcer la sécurité publique au Canada.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
La précarité progresse en France. Selon le dernier baromètre du Secours populaire, 62% des Français disent avoir connu ou connaître une situation de pauvreté. 38% des sondés disent avoir des difficultés à payer leur loyer. Presque autant disent avoir du mal à payer leur mutuelle. Des difficultés financières plus importantes encore dans les milieux ruraux, où un répondant sur deux dit ne pas pouvoir manger 3 repas par jour pour nourrir ses enfants. Dans le Gard, dans le Sud, donc, 20% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, une précarité qui n'épargne personne, ni les retraités, ni les étudiants. Alors, le Secours populaire va distribuer des colis alimentaires. Clément Arnal, vous avez suivi une distribution à Redescent, où l'association passe une fois par mois.
Oui, au parc de la Fontaine, les bénévoles organisent la distribution. Certains préparent les colis et les transportent.
Tu restes à côté, je vais vous les emmener.
Regardez, prenez ça.
D'autres accueillent les bénéficiaires, l'occasion de faire le point, de donner de précieux conseils, mais aussi d'écouter les soucis du quotidien. Christine vient récupérer des colis depuis 4 mois.
Pour avoir une aide alimentaire, parce qu'il y a eu une séparation et je suis tombée malade et je suis en arrêt de travail depuis plus de 2 ans.
Cette année, le Secours populaire souhaite alerter sur la précarité du monde rural. Des campagnes frappées de plein fouet par la pauvreté, selon Florence Luizière. C'est la directrice de l'antenne gardoise du Secours Pop.
Les habitants en milieu rural sont plus touchés par la pauvreté parce que le coût de l'immobilier est moins important dans des villages. Du coup, il y a une concentration plus importante de personnes qui ont plus de difficultés. Habiter en milieu rural, ça veut dire avoir une voiture. On a besoin d'avoir une voiture quand on habite dans un village. Il y a le coût de l'assurance, du prêt, des réparations, tout ça. Cette action illustre aussi ce monde-là, ces difficultés-là et la nécessité pour nous d'être présents dans ces territoires ruraux et périurbains.
Ajoutez à cela l'isolement social et le manque d'accès aux services publics. Alors le Secours populaire assure aussi un accompagnement juridique et scolaire et se bat pour que ces familles précaires aient accès à quelques jours de vacances.
Clément Arnal pour France Bleu, Gare Lozère. Ils se sont octroyés ce printemps une 13e rente annuelle pour leurs vieux jours. Les Suisses votent à nouveau dans quelques jours. Ce sera dimanche prochain. Pierre Rand, à nouveau sur la question des retraites.
Oui, les votations s'enchaînent. Il y a 2 ans, l'électorat approuvait l'élévation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, comme les hommes. Une mesure d'économie défendue par la droite. Et puis, en mars dernier, c'est la proposition de la gauche qui a passé la rampe. Les retraités toucheront dès 2026 une 13e rente au mois de décembre.
Et donc, le 22 septembre, vous voterez sur ce qu'on appelle en Suisse le deuxième pilier.
Exact, le premier pilier, c'est l'assurance vieillesse solidaire où tout le monde cotise le même pourcentage de son salaire et touche la même rente. Les hauts revenus financent donc les autres dans ce système de répartition. Le deuxième pilier est également obligatoire à partir d'un certain revenu, mais chacun cotise pour soi, c'est de la capitalisation de l'épargne forcée si vous voulez. Dans les deux cas, employés et employeurs cotisent paritairement.
Et là, vous votez sur une réduction des rentes.
Oui, pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie, il s'agit de diviser le capital accumulé en plus d'années et donc de réduire la rente annuelle. Inacceptable pour la gauche, même si ce projet apporte des améliorations pour les bas revenus qui pourraient cotiser davantage, le socialiste Samuel Bendaon.
Notre vision, c'est que ce deuxième pilier doit améliorer la condition des gens. C'est extrêmement important que si des gens cotisent plus parce qu'ils ont des bas revenus, ils se retrouvent pas à avoir pas de rente en plus. C'est pas normal pour nous d'avoir un deuxième pilier qui permet pas, avec le premier, de vivre.
À droite, l'UDC Céline Amaudru craint qu'en cas de non, la gauche remette en cause ce deuxième pilier pour y introduire davantage de solidarité.
Tous les pays nous envient notre système et nos retraites, et ça je crois que c'est le plus gros danger. Donc effectivement, si un non ressort, on retravaillera, c'est évident, mais en tout cas l'UDC et la droite, j'en suis certaine, retravaillera dans l'optique de maintenir ce deuxième pilier, à savoir que les personnes cotisent pour elles-mêmes.
Et si l'on en croit les sondages, les parlementaires devront bien imaginer une autre réforme.
Enfin, on se quitte en Belgique cette semaine avec des milliers de passagers bloqués à l'aéroport de Charleroi en région wallonne. Des avions cloués au sol en raison d'une grève du personnel de l'aéroport. Il se dit à bout. Et Jacques, il dénonce de mauvaises conditions de travail.
On s'attendait à une journée de perturbation. Jeudi, finalement, ce sera la paralysie. Jeudi et aussi vendredi. Et un grand désordre pour des milliers de passagers dépités, surpris par l'ampleur de la mobilisation. Cette fois, ce ne sont pas les pilotes de la compagnie Ryanair, dont Charleroi est l'une des plateformes européennes, mais le personnel de l'aéroport qui est à l'origine de cette action. Le personnel de l'enregistrement des bagages, soit l'ensemble des fonctions opérationnelles. Ces travailleurs dénoncent leurs conditions de travail, la pression, le manque d'effectifs, notamment dû à une reprise de l'activité. Épuisé, le personnel a donc décidé de passer à l'action, malgré de nombreuses rencontres avec la direction, des réunions manifestement infructueuses. Résultat, des milliers de passagers bloqués, comme ce couple de Bruxellois en partance vers le Maroc.
On a pris la route de Bruxelles à 4h du matin, à 4h30, et là, voilà, le vol était annulé.
Vous aviez reçu un mail ?
On a reçu un mail, mais je viens de le voir. C'était envoyé à 22h, on était déjà au lit.
Donc voilà, on est vraiment dégoûté. On ne sait pas encore quoi faire. Moi, je ne sais pas. Lui, il dit qu'il va avoir des vols, mais moi, je ne suis pas sûr que j'aurais encore envie de partir.
Jeudi, l'intervention de la ministre wallonne des aéroports n'a pas permis une reprise du travail. Vendredi, l'aéroport était donc de nouveau paralysé avant de nouvelles discussions. Le deuxième aéroport du pays est régulièrement touché par des mouvements sociaux. L'an dernier, il a accueilli environ 9 millions de passagers en forte croissance par rapport à 2022.
Jacques Crémer, c'est la RTBF pour refermer ce rendez-vous des médias francophones publics. Merci à vous d'avoir été là. L'Accent des autres revient la semaine prochaine avec Radio-Canada, la radio-télévision suisse, avec France Bleu, RFI et la RTBF. Excellente fin de semaine.